les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi, avec Morgane Gadignan, avec Alexis Le Rossignol. Tanguy Pasturo, Daniel Morin, et nos invités Valérie Bonneton et Stéphane De
Vaux. Ah oui.
Déjà, est-ce que ça va bien?
Oui, très bien, très bien.
Super. Ça sent le bon week-end,
super.
Ça.
Super. Le travail.
Super. C'est bien. Ça, le fameux. On se demandait avec Morgane Gadignan, juste avant l'émission, si tout le monde tenait ses résolutions de janvier. Résolutions de janvier.
Tout le monde n'en a pas pris.
T'en as, rien, Alexis, toi. Donc, toi, tu dis, je suis un homme parfait, je change rien.
Non, mais je sais ce que ça vaut, des résolutions.
Mais justement, ça on laisse tomber en février. D'où ma question, là, en février, est-ce que vous les tenez ou pas? Bon.
Moi, j'en ai pas pris non plus.
Ah, ok, d'accord.
Moi, j'en ai pas pris des masses non plus. Non. Mais j'en ai tenu une, ouais.
D'accord.
Moins d'alcool.
La drogue? Ah, ouais, l'alcool. Oui, c'est un peu pareil.
Voilà. J'ai pris plein, échec total. Voilà, c'est un 100% d'échec.
Et Morgane, tu m'as dit que plutôt ça allait bien de ce côté-là.
Oui, mais moi, ça fait un mois aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer.
Bravo, mon cher. Merci.
Dans un mois, je reprends.
Bravo, on se dit rien. C'est bien.
Bah ouais.
Et à partir de quand on est sûr que ça reviendra plus?
Ah, jamais.
Ah,
jamais.
À ma mort. C'est ça le problème.
À mes 72 ans.
Mais la clope que tu m'as prise tout à l'heure, c'était pour un copain, c'est ça?
On est prise. Allons-y. Qui chante ça?
Daniel Mike Brandt.
Oui.
Oh là là, mais oui. Ah, ouais. Ah, pardon maman. Elle adore Mike Brandt.
Pardon maman.
Je crois que c'était Mike Brandt, ta mère, j'ai
le cœur.
Je croyais qu'il y avait un truc entre Mike Brandt et ta
phrase est magique. Non, je croyais que c'était Mike Brandt.
Qui saura me dire le chanteur ou la chanteuse?
Leïla.
Oui.
M.
Oui. Bon, vous avez compris le thème, j'espère.
C'est les qui?
Joli.
Kiki.
Non, il n'y en a qu'un.
Qui
c'est? Chante ça. Oh, le suspect.
Jean-Michel Jarre?
Non.
Morgane?
Oui, Jules? Oui. Mais chaque fois que c'est Jules, c'est toi qui reconnais, je sais.
À la voix.
Quand je prépare, je me dis, allez, un point pour Morgane.
C'est moi le plus grand fan de Jules.
Non, j'écoute jamais.
Là, je me suis dit que ça serait un point ou pour Daniel.
C'est quoi la chanson? Comment s'appelle-t-elle?
Ça s'appelle Qui a dit?
Qui a dit?
Mais comme elle était à Marseille,
exactement,
elle
a cartonné, il paraît. Tanguy?
Oui.
Daniel. Non, pardon. Qui c'est celui-là, Pierre Vassilou? Pardon. Tu nous as fait une là?
Oui, je sais. Non, mais
t'as fait une là.
Je l'avais.
Ah, j'en ai un.
Ou alors,
avec qui?
Ou alors une AVC, je sais pas.
Oui, c'est. Mais... ou alors la lenteur intellectuelle, tout simplement.
Pardon? Ah oui, on parle de moi. Si vous savez
comme c'est. Tu as ton qui?
Ouais, j'en ai un.
Ok.
Je pense que t'es capable de masser.
Quel qui est là?
Leïla.
Oui.
Qui a du caca caca collé au cucu?
Non.
Ah, c'était pas ça?
Mais j'y ai pensé.
Ah mince.
La comptine. Ouais, c'est une... ouais. On va avoir un sur tout le monde, c'est une comptine d'enfants. Non.
Morgan?
Oui.
James?
Non.
Yel?
Non. Si je quittais l'école,
c'est le petit ça sent. Morgan, bazooka?
Section d'assaut?
Oui, section d'assaut.
Je crois que c'était Fatal Bazooka.
Oh!
Aznavour! Aznavour!
Attends, c'est bon, la réponse.
La prochaine.
J'aime bien, hein.
Bon, j'ai cramé Aznavour, c'est pas grave.
C'est le Super Banco?
Maintenant, le Super Banco.
Ah!
Maintenant, le Super Banco. Alors, pour l'instant,
c'est. Ah, c'était rapide comme test. Du coup.
Bah oui, parce que j'ai.
Aznavour qui est mort.
Aznavour, je pense que
je vous le donne quand même pour le plaisir.
Morgane!
Aznavour!
Non, non, non,
non! C'est pour les gars.
C'est vraiment une équipe de Yen.
Toi, tu prends les buts contre son camp, tu dis ouais, c'est moi qui l'ai marqué.
Exactement, ça reste un but. Hein.
C'est la victoire qui compte. Seule la victoire compte.
Peu importe le chemin.
Et la victoire, c'est peut-être maintenant, oui. C'est sûrement maintenant. Il y a 3 points à gagner, donc la victoire. Votre prénom d'abord, interprète ensuite.
Leïla?
Oui.
Les Clash?
Non.
Tanguy?
Oui.
Les Who?
Oui.
Les Who? Ah non, c'est Who Are You?
Mais non, je sais pas rien.
Où, qui?
C'est le générique de je sais pas quoi. Là.
Les experts.
Experts.
Oh là là.
Donc il y a Who Are You dans le titre et les Who. Il y a qui à tous les visages, on est d'accord. Bonjour. Quel champion. Victoire de Tanguy Pasturo.
Merci.
Et merci d'accueillir Valérie Bonneton et Stéphane De Vaux.
Ah oui,
la bande originale avec Nagui.
Depuis le 26 janvier, soyez les bienvenus. En tout cas, depuis le 26 janvier, vous êtes au théâtre Édouard VII pour interpréter qui est Monsieur Schmitt du dingue, Sébastien Thierry. De toute façon, il n'y a pas une pièce qu'il n'ait faite qui ne soit pas totalement barrée. Ouais. Comment ça va, Valérie ?
Ah bah super. On est là, on est content parce que le théâtre, on retrouve tout le monde et c'est tellement vivant. Les gens sont heureux d'être là et nous terriblement heureux.
Mais il fait beau au théâtre Édouard VII parce que vous êtes bronzé, c'est un sol.
Oui, Stéphane, vous êtes terriblement bronzé.
Mais terriblement. Terriblement bronzé.
C'est différent.
En général, on dit vous êtes bronzé, ça vous va super bien.
Mais là,
ça n'empêche pas.
En contraste, par rapport à nous.
Vous êtes bronzé.
Non, il est rouge. C'est le vin. Mais
alors, je vous rappelle que nous jouons cette pièce. Nous avons été en tournée à Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, par définition, c'est un pays de provençal.
C'est ça.
Et il y a du soleil.
C'est vrai.
Très bien. Vous êtes un couple que l'on découvre dans son salon, à table, en train de manger pour l'ouverture de cette pièce, et ça devient rapidement une histoire de fou. Le téléphone sonne et vous n'avez pas le téléphone normalement.
Exactement,
dire, c'est dire, voilà, très bonne réponse de Valérie, exactement.
Voilà, c'est-à-dire que Sébastien, c'est toujours on rentre dans des cauchemars qui tire un peu comme chez Fedo. Il y a aussi du billard aussi chez Sébastien. Moi, je suis fan de Sébastien depuis 30 ans.
C'est pour ça que j'ai pris l'expression histoire de fou, parce que on est justement dans des méandres, on est dans le mental. On découvrira, il faut pas tout dévoiler, parce que j'ai presque le sentiment de dire que la pièce se passe en trois moments, en trois évolutions. C'est-à-dire qu'on est, il y a d'abord le constat de se retrouver dans un appartement qui n'est pas le leur pour ce qui est de ce couple, et un problème d'identité justement en disant, êtes-vous, c'est le titre de la pièce, êtes-vous Monsieur Schmitt, mais qui est ce Monsieur Schmitt, je n'en sais rien, et là on est totalement perdu au même titre que les Monsieur Schmitt en question, ou Monsieur Bélier d'ailleurs, on ne sait plus trop bien nous-mêmes qui est qui. Puis il y a un moment de révélation, et après il y a la résolution.
Les pièces de Sébastien, c'est toujours très déroutant, c'est toujours extrêmement drôle, mais jamais un rire facile. C'est ce que j'aime. Voilà,
c'est barré, quoi.
Mais oui, et on se pose toujours beaucoup de questions. On comprend peut-être pas toujours tout, mais c'est ce qui me plaît aussi.
Oui, mais c'est ça, parce que vous parlez de folie. C'est pas tant ça, la folie.
Non, j'ai dit histoire de fou. Tu sais, l'expression, c'est une histoire de fou, ne serait-ce que de dire le téléphone sonne chez moi, j'ai pas le téléphone. Voilà, c'est quoi ?
C'est de la folie.
Je crois même que la réplique est dite dans la pièce.
Mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, c'est la vie aussi. On reconnaît plein de choses dans la vie.
C'est-à-dire qu'il y a
des choses tellement hallucinantes dans la vie. On se dit, mais. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est comme ça ma vie aujourd'hui ?
Et on parle avec cette voix-là.
Souvent, en fait.
Et Stéphane, c'est pas une histoire de fou pour vous ?
Non, pour moi, au contraire, c'est parce qu'on est dans l'absurde, et l'absurde nous ramène à une forme à une réalité très, très, très vraisemblable et très, comment dirais-je, qui a des codes qui nous permettent de pas nous perdre complètement. Ça nous égare par moments, mais ça nous perd pas. La vraie folie, c'est de nous perdre. Et ici, il y a toujours un fil ténu qui nous ramène à des situations tangibles. Et c'est pour ça que le public nous suit.
Oui, mais il y a un des personnages qui est perdu. Il y a une révélation qui est faite ensuite avec une espèce de docteur qui intervient pour faire une enquête. Parce qu'évidemment, la police s'en mêle, tout le monde s'en mêle pour savoir qui est réellement Monsieur Schmitt. Et là, il y a une scène qui est extrêmement touchante, presque et bouleversante, quand on passe dans une autre dimension. J'essaie de pas tout dire.
Mais c'est touchant.
Il y a même un moment où on peut se demander si on a envie de rire ou de pleurer. C'est-à-dire qu'on est ému par la situation que vous interprétez tous les deux, en continuant de nous faire rire. C'est-à-dire, il continue d'y avoir des vannes, des situations drôles, mais comme on a des éléments en plus pour s'attacher à ces personnages, on est ému.
Oui, mais d'ailleurs, nous-mêmes, en tant que personnages, on se surprend à avoir les larmes aux yeux à la fin, que ça soit Valérie ou moi, parce que on passe du rire aux larmes dans cette pièce, parce que de nouveau, on est dans une vie, dans une forme de vie, avec un prisme effectivement très singulier, mais quand quelqu'un se perd et puis se retrouve petit à petit, il y a beaucoup d'émotions qui entourent cette démarche-là. Et c'est très très bien construit, parce qu'au début, on peut penser que c'est très léger, que c'est une pièce de boulevard, et puis petit à petit, ça devient grave, et ça devient, il y a des enjeux très très importants, en fait, d'identité, de qui on est, vers où on va, qui nous permet de nous retrouver nous-mêmes. Là, en l'occurrence, c'est ma femme, Valérie, qui, quand elle me regarde, me fait comprendre qui je suis. C'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir des partenaires, j'allais dire fiables, mais mais aussi formidable que Valérie.
Et puis à l'écoute,
qui regarde, qui entend, qui vous aide à construire un personnage et la situation qui se produit pendant une heure et demie. Et je vous assure, c'est pas parce qu'elle est là et c'est pas pour être complaisant, mais si c'est aussi bouleversant, c'est parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me regarde comme elle me regarde et qui me décrit, en fait. C'est dans son regard que je vois aussi qui je deviens.
Alors justement, c'est pareil pour moi, c'est la même chose.
Pour rebondir sur ce regard et sur cette écoute, il y a un moment où le personnage interprété par Stéphane de Groot est interrogé sur décrivez-moi qui vous êtes et quelles sont vos perversions ou vos envies, et là vous êtes uniquement en écoute, et c'est ça qui est à pisser de rire, c'est uniquement voir votre visage, découvrir les affres sexuelles de son mari et ses révélations, uniquement avec les yeux, la tête.
Ah là, j'ai pas grand chose à faire,
en fait. Non, si, c'est vrai, mais que... si, justement, oui, c'est ça qui est génial, parce que c'est vous qu'on regarde, c'est vous qui nous faites rire à ce moment-là.
Génial, autant
ce qu'il... Ah, je pensais que c'était mon tour.
Non, pas à ce moment-là. Non, quand t'es seule, oui, quand tu tombes.
Est-ce qu'on m'a dit ce week-end ? Non, sur cette scène-là, bah oui, parce
elle
que c'est merveilleux.
Avec le médecin, qui est interprété par Alain Douté. Voilà.
Oui, exactement. Si, c'est Alain Douté, oui.
C'est Alain Douté,
Stéphane Dagro.
Il y a Chic Ortega.
Et Chic Ortega, voilà, qui sont tous formidables. Dagro,
voilà, il faut. Je voulais juste être sûr du casting aussi, parce qu'il a évolué en.
Il y avait Renaud Rutten au début, qui était un camarade belge, un liégeois formidable. Et effectivement, c'est Chic Ortega qui a repris son rôle. Et
pareil pour Alain Douté, qui a repris aussi. Où il a toujours eu le rôle.
Non, on a fait une captation de la pièce, et ça, c'était pas Alain Doutet. Et puis Alain nous a rejoint pour toute la tournée et pour la série à Paris.
Il est parfait, il est parfait. D'une droiture, d'une
rigueur. C'était Thierry Bosque qui jouait.
Exactement, j'allais le dire.
Ça s'appelle Qui est Monsieur Schmitt, signé Sébastien Thierry, mise en scène par Jean-Louis Benoît. Ça se passe au théâtre Édouard VII. On a eu la chance d'y aller, de rire avec le public et d'être aussi interpellé quelque part.
Mais oui, de se demander, de se poser beaucoup de questions, parce que c'est aussi
ça.
Et de se demander où est la clé de compréhension, et puis finalement d'accepter peut-être qu'il y en a plusieurs et qu'il faut se laisser promener avec vous, et c'est plutôt très très agréable de se promener avec vous.
On va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi. Valérie Bonneton, Stéphane de Groot sont nos invités. Tout le monde est ravi de vous accueillir. Enfin, tout le monde. C'est pas vraiment le cas de Morgane Cadignan. Parce que Morgane ne vous aime pas, Valérie Stéphane.
Ah merde. Valérie Stéphane, je vous aime pas. Quand j'ai écrit cette chronique il y a quelques jours, j'étais à table avec Guillermo Guise, figurez-vous. J'ai vu qu'on vous recevait tous les deux, et je lui ai dit « Ah tiens, mais je pourrais faire une chronique hommage à Stéphane de Groot en faisant plein de jeux de mots. » Et il m'a dit « T'as raison, je pense que personne ne fait ça quand le gars est sur un plateau. Ça serait vraiment une première. » Et après, je lui ai dit « Mais t'es ironique ?» Il m'a dit « Non, je suis belge. » Après, j'ai dit « Mais non, mais Stéphane de Groot. » Il m'a dit « Mais belge aussi. » Bon, du coup, j'ai un début de chronique, mais au prix d'un déjeuner, mais laborieux, quoi. Heureusement que le déjeuner était gratuit, parce que Guillermo, il m'emmène manger au Resto du Cœur. C'est pas spécial. Non, c'est pas spécialement un crevard. C'est juste que c'est vrai qu'il dit souvent « Attends, 7 euros, ça fait 45 francs la formule. Avoue que ça fait un peu cher. » Bref, tandis que j'étais debout en train de déguster mes raviolis dans un courant d'air, Guillermo m'a laissé sa chaise en me disant « C'est quand même ton anniversaire. » Je me disais « Valérie Bonneton, ça fait quelques fois qu'elle vient. Elle sait que je lui dis que je l'aime pas et qu'en fait, c'est pas vrai. Mais Stéphane, c'est la première fois. Faut faire les choses bien. » Du coup, j'ai lu votre biographie avec beaucoup de sérieux. Et là, mais je suis sur le cul. Vous avez été pilote de course. Et quand je l'ai dit autour de moi, bah, tout le monde semblait trouver ça logique, et tout le monde était déjà au courant, en fait. Bah ouais. Mais le monde entier, même l'esthéticienne, même mon esthéticienne chez Body Minute, elle m'a méprisé, la meuf. Je lui ai dit, mais vous saviez que De Groot, il a été vice-champion du Benelux en Formule Renault, vous? Elle m'a dit, bah, je suis sur le cul. J'ai dit, mais moi aussi. Elle m'a dit, non, pour De Groot, je savais, mais je fais votre fille, on la respirait bien. Vous arrêtez d'être pilote de course professionnelle. Vous arrêtez d'être pilote de course professionnelle pour devenir comédien à plein temps. Et pardon, hein, mais arrêtez d'être pilote de course pour devenir comédien, c'est pas une vraie vie, ça n'existe pas. On dirait une histoire, tu sais, qu'on invente à un enfant pour lui cacher que son père, il est en tôle. Ton papa, c'est un célèbre astronaute. Il est dans l'espace pour sauver les pandas cosmiques. Bon, malheureusement, en revenant, il a buté une pute. C'est là qu'il a été arrêté. Là, il est à Fresnes. Quelle vie, Stéphane! Ça m'impressionne. Vous avez fait tellement de trucs différents, et vous êtes encore un tout petit peu jeune, quoi. Moi, ce genre de CV, je me demande toujours ce que ça cache, à part l'absence de génome antillais. De la télé, du théâtre, de la radio, vous avez trouvé le temps, au milieu de tout ça, de voyager un peu en absurdité. Ça doit être un problème de rapport à l'ennui, et toute cette productivité est hyper dangereuse. Il y a forcément un moment où tu deviens Nagui, quoi, dans le processus. C'est vrai, vous allez finir tassé sous toute cette masse de travail. Vous aussi, à la base, il faisait 1m97, hein. Donc attention. Vous partagez l'affiche avec Valérie au théâtre Édouard VII. Donc, dans Qui est Monsieur Schmitt? C'est l'histoire de Monsieur et Madame Bélier qui découvrent qu'ils sont pas eux-mêmes. même. Bah oui, nous, ça fait un petit moment qu'on sait que c'est Karine Viard et François Damiens, mais soit. Il ne sait plus qui ils sont, leur appartement, ils ne ressemblent plus à leur appartement, c'est pas leurs affaires. Bref, une pièce sur la sensation que ça fait de rentrer Yves de soirée et en fait de rentrer chez ton voisin. Sauf que là, c'est mieux joué que quand c'est Leïla qui rentre chez moi à 5h30 en disant « Chérie, je suis rentrée, j'ai l'opium !» Allez, bonne émission.
Merci. Merci.
Bonne résolution.
Bah oui, on avait dit pas en 22.
C'est vrai, mais bon, c'est pas facile. Morgane, tu seras sur scène le 12 février à Courmont d'Auvergne.
Exactement.
Yes.
En Auvergne.
Ah, priori. J'adore cette pièce.
C'est sur cette musique que la pièce ouvre. Avec un couple d'oncles qui entend son téléphone sonner alors qu'ils ne sont pas abonnés au téléphone, qui découvre que les tableaux ont changé, les livres, les fringues, enfin bref, tout.
La porte est fermée à clé.
Et on ne peut pas sortir.
Pourquoi faut-il sortir ? Pourquoi faut-il avoir une réponse ? Pourquoi ? C'est tout ça en fait, c'est là où se trouve effectivement le suc même de l'univers de Sébastien, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il faut
Il y a aussi le pragmatisme avec lequel vous réagissez en disant mais si ma clé a fonctionné en entrant, pourquoi elle ne fonctionne pas en sortant ? C'est-à-dire que vous êtes extrêmement ancré dans la réalité,
ouais,
justement.
Très rationnel.
Vous êtes très rationnel.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a toujours, moi, chez Sébastien, ce rapport que j'adore absurde avec l'autorité, avec les flics ou avec les médecins.
Mmh. Oui, mais
on est un peu comme des, non, mais c'est vrai, des marionnettes
comme
dans
des
cette
cobaies.
Boîte, un peu.
Ou des, ouais, parce que fondamentalement, on n'a pas besoin de sortir, puisque on comprendra que, in fine, on est chez nous. On n'a pas besoin de sortir, on est à la maison.
Oui. Dans la vie, on peut sortir de chez soi, vous savez.
Non, normalement, on ne peut pas sortir de chez soi.
Hein, voilà, confinement et
Est-ce que jouer justement avec l'absurde nécessite une complicité du public et justement aussi qu'il décrypte, décode un tout petit peu l'esprit dans lequel on est. Est-ce que vous sentez qu'il y a des soirs où le public est meilleur que d'autres soirs, Valérie?
Meilleur, non, le public est toujours bon, c'est peut-être nous qui sommes mauvais parfois, en fait.
Non, mais on a déjà entendu.
Mais non, c'est vrai, moi je pense toujours que le public a raison. Je pense toujours que.
On a déjà dit que des acteurs ont déjà dit à ce micro, ici, il y a des soirs où le public est bon.
Elle n'est peut-être pas d'accord.
Non, ça veut rien dire. Je trouve que parfois, c'est pas la même ambiance. C'est vrai qu'on est bien sûr porté par les rires, mais quand les gens rient moins, ça veut pas dire du tout que la pièce est moins bonne, parce qu'on sent après, à la fin, vraiment l'accueil excellent, quoi. Donc, ça veut rien dire. Je pense qu'ils ont toujours raison.
La vérité est entre les deux, je crois.
Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation?
Non, mais c'est vrai. Je trouve que le public, voilà, c'est le public.
Mais pourquoi je dis que c'est entre les deux?
Non, évidemment qu'on est porté, mais c'est peut-être souvent mauvais, parce que quand on est porté par les rires, alors on se dit, allez, on se lâche un peu plus. Et je trouve qu'au contraire, quand les spectateurs sont, c'est plus tenu, on a envie d'être meilleur et plus vrai, de chercher toujours, en tout cas, la vérité dans l'absurde.
Pourquoi dites-vous que c'est entre les deux, Stéphane?
Parce que la pièce démarre, nous sommes tous les deux à table. Il y a des soirs, on ne fait rien, le rideau se lève et les gens applaudissent. Ils sont dans une humeur. Il y a d'autres soirs, ils n'applaudissent pas. Et souvent, on remarque que le public nous suit de manière très 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 marquée, très énergique quand ils ont applaudi au début. Du coup, ça nous porte d'une certaine manière. C'est comme une portée à musique. Et du coup, notre partition, elle est conditionnée par ce public qu'on ressent d'une certaine manière. Et d'autres soirs, ils ne réagissent pas tellement. On a l'impression de faire la même chose, ils ne réagissent pas tellement. En revanche, à la fin, ils sont presque debout.
Alors, j'ai une petite explication. Celle déjà de se dire qu'il y a peut-être un public qui sait dans quel univers il va rentrer, soit en connaissant Sébastien Thierry, soit en ayant entendu déjà qu'on est dans de l'absurde. Donc, la moindre phrase va pouvoir les faire rire en se disant « Ok, je peux rire de ça parce que c'est absurde ». D'autres sont gênés en disant « Est-ce que c'est grave ou pas ? Est-ce que je ris ou pas ?»
Donc,
donc c'est pour ça que je dis qu'il faut décoder un tout petit peu, comprendre.
Mais c'est tellement pas conventionnel, tellement pas convenu.
Et puis je suis pas d'accord,
c'est pas
une pièce de boulevard, au sens.
Non, au début, les 5 premières minutes.
Il n'y a pas d'amant, il n'y a pas de.
Non, mais le début, ça
personne cachée dans le placard.
Il y a des ficelles au début qui sont assez.
On peut se demander, quoi. Voilà, mais c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, ils disent ah oui, mais alors on sait pas. Et ils ont beaucoup ri, mais après.
Et je pense, parce que Valérie l'a dit avec beaucoup de pertinence, parce que Valérie, elle est.
Elle a mieux dit.
Non, c'est-à-dire qu'il faut, comme elle le dit, il faut être absolument dans la vérité. Alors, j'ouvre une porte ouverte quand je dis ça, mais il faut être vraiment d'une sincérité absolue, parce que vous emmenez les gens dans un univers absurde. L'absurde, de toute façon, c'est noir ou blanc. Les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Il faut pas essayer d'aller les chercher. Il faut être soi-même, absolument, au risque de déplaire le public à un moment donné. Mais c'est un registre d'une sincérité qui est absolue. C'est pour ça qu'on on kiffe.
Oui, bah oui, kiffe, non, bah c'est bien. Ce qu'on aime, parce que dans l'absurde.
Kiffe, ça se dit, oui. Par contre, on n'ouvre pas une porte ouverte, on l'enfonce. Et il faut.
Ah oui, c'est.
Monsieur, je maîtrise la langue française, je viens de Belgique.
Comment
j'ai jamais dit que je maîtrisais la langue française.
Est-ce qu'on n'ouvre pas moins une porte ouverte que de l'enfoncer?
Ah, vous remettez tout en cause. Ok, d'accord. Défendez-le, mais il a tort.
Non, entre les deux, là.
On peut pas l'enfoncer.
On refait pas l'ouvrir. On est tout coup des courants d'air, Maggie.
Est-ce que de jouer ces personnages qui passent par différents états.
Oui, j'ai envie de dire oui.
Oui. Mais oui. C'est un plaisir. Mais c'est ce qu'on aime, en fait.
Il y a un
spectre. Et c'est ce que le public.
Ça va être long.
Dans le. Jusqu'à midi et demi, on va tenir. Mais moi, j'ai pas peur. Non, parce que Stéphane de Groot, finalement, est dans son rôle, entre guillemets, pendant toute la pièce, votre personnage, lui, évolue aussi entre l'arrivée ou
c'est-à-dire
non.
C'est-à-dire qu'il bascule à un moment donné, je ne peux pas raconter pourquoi, mais en fait, il... je peux quand même dire...
L'arrivée du fils.
Il est dans sa tête. Enfin, elle est dans sa tête. C'est donc c'est son point de vue, en fait, de lui sur moi. Et donc, je suis à fond avec lui. Et puis après, bon, on sort de sa tête. Donc on est avec elle, après.
C'est pour ça que je disais que c'est très important d'avoir une partenaire.
C'est pas mal qu'on m'a dit, en fait,
pour aller
voir la pièce.
Plus simplement de dire, on a d'abord le point de vue de votre mari, puis votre point de vue.
Voilà, c'est ça.
Non, attendez, vous vouliez dire, pardon Stéphane,
c'était il y a un quart d'heure, je ne sais plus.
Non, c'est génial d'interpréter un rôle comme ça.
C'est pas que son point de vue, parce que ça serait que son point de vue, elle continuerait à jouer sa partition. Elle est dans sa tête, donc c'est différent.
Au début.
Oui, mais donc c'est pas juste un point de vue ou un autre point de vue. Elle est vraiment dans sa tête et c'est important.
C'est-à-dire qu'il la voit comme ça. Donc
je me demande bien comment les auditeurs perçoivent cette discussion sans avoir vu la pièce.
Mais ça donne envie, c'est des indices, c'est bien.
Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui peut faire basculer une actrice, un acteur dans un projet?
Le théâtre, c'est très difficile. Il faut vraiment que ce soit top. Il faut que les partenaires, il faut qu'on s'entende très très bien. Il faut qu'on puisse être libre et jouer ensemble dans une grande confiance. Il faut surtout que le texte soit dément, parce que sinon, qu'est-ce que c'est dur.
Dans quel ordre? C'est d'abord le texte. Et après, la deuxième question, c'est avec qui?
Ah oui, tout de suite.
Oui, mais bon, Sébastien, moi je le connais depuis 30 ans et je suis archi fan. Il était au conservatoire merveilleux, il faisait pleurer de rire les salles, on avait des larmes tellement on riait quand il passait une scène de Molière sur scène. Il est très impressionnant, donc. Et puis voilà, il s'est mis à écrire et je le trouve absolument.
Pour ceux qui ont vu Momo, Ramsès, pour.
Ouais, j'ai vu toutes ces pièces, je les connais toutes, j'ai toutes vues, toutes.
Et il était acteur aussi, il jouait sur
scène. Oui, il est acteur. Oui, mais c'est un dingue. Et puis très poétique, très très drôle, très poétique.
Oui, il y a toujours du fond quand même, parce que c'est pas la folie pour la folie, il y a aussi beaucoup de tendresse dans les personnages.
Oui, il y a beaucoup de tendresse, mais c'est toujours très très humain, quoi.
C'est pour ça que ça fonctionne, sinon ça devient... C'est un exercice de style qui n'intéresse personne. Et alors ce qui est assez intéressant pour un comédien, et je parle aussi pour Valérie, c'est qu'à force de jouer cette pièce et qu'elle nous rentre dans les pores, dans la chair, pour pouvoir l'incarner comme... Oui, vraiment incarner ces personnages et cet univers-là, c'est qu'on commence à comprendre ce qui se passe dans la tête de Sébastien.
Mon Dieu.
Et là, on se dit, il va loin, quoi. C'est vrai que parce que lui, il a pensé à tout ça.
Il va loin.
Et toutes les humeurs par lesquelles on passe pour incarner ces personnages et ces situations, il les a pensées, il les a vécues, lui, dans son intime, pour pouvoir les traduire.
Oui, parce que de mémoire, Momo était l'histoire de son frère aussi. Donc, il va puiser dans des ingrédients personnels, en tout cas, des éléments pour ensuite faire rire. Mais aussi faire un tout petit peu réfléchir. Je dis pas qu'il y a forcément une conférence qui peut enchaîner après avoir vu le spectacle. On peut aussi se contenter de rire, d'applaudir et d'aller prendre un verre entre amis. Mais il y a de quoi aussi se poser des questions sur qui nous sommes, tout simplement, et le regard des autres.
Non seulement il y a ça, et puis pendant les répétitions, il y a des moments où, parce que Sébastien était là, et on lui demandait, tiens, là on comprend pas très très bien l'enjeu et pourquoi.
C'est ça.
Et il me dit, je ne sais pas non plus.
Il écrit vraiment de manière inconsciente, c'est incroyable. Enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours les mêmes obsessions qui reviennent, quoi. Toujours l'autorité, les médecins, l'absurdité de cette vie-là, quoi.
Ce sont des référents aussi qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire le respect de la loi, le respect justement du médecin, le rapport parent-enfant et dans le couple, tout ça. Voilà, on a au moins de quoi avoir au moins des repères dans une histoire qui, elle, manque de repères, mais c'est ça qui est drôle.
Mais je vais
dire ça pas en tous les sens.
Je vais dire un truc peut-être énorme, mais il y a du Molière dans Sébastien Thierry.
Dans quel sens?
Dans celui-là.
Parce que c'est très humain, tu veux dire, et que c'est toujours
la... Et dans la manière de décrire, de dénoncer un profil, quand on voit toutes ses œuvres, la force, la qualité sociologique qui met dans ce personnage, je trouve qu'il y a du Molière là-dedans, ou du Poquelin, c'est selon...
Mais quelle pièce alors, tu dirais ?
L'autre.
L'autre.
Non, ouais. C'est vrai qu'il y a un petit côté anti-conformiste, il y a évidemment de l'humour même, presque un peu politique aussi dans la situation.
Choses,
oui,
ouais.
C'est ça,
ouais.
Les vannes faites sur Luxembourg sont drôles et en même temps sont tristement vraies sur la manière dont l'argent est utilisé, ou les profits sont utilisés là-bas.
Ouais, et puis surtout, je crois qu'au-delà de ce qu'on veut y mettre, en fait, c'est surtout... assister à un spectacle comme ça, c'est accepter que l'ordre du récit traditionnel, le temps d'un spectacle, vous échappe. Et moi, je trouve que ça, c'est une expérience intéressante. C'est d'accepter de se perdre. Oui. Et peu importe ce qu'on comprend, finalement, au fond, c'est pas tant ça l'intérêt, quoi. C'est, on a toujours situation initiale, élément perturbateur, situation finale. Bon, bah, ça, c'est le schéma traditionnel. Bah, là, on accepte qu'il va se passer autre chose.
Oui.
Et juste pour ça, c'est de l'ordre de l'expérience, en fait, plutôt. Je sais pas si...
Oui, mais vous avez raison.
Je sais pas si Sébastien Thierry, c'est Poquelin ou pas Poquelin. Et en fait, je m'en fous, parce que ce qui compte, c'est que tout d'un coup on est dans...
Non mais
ce qui compte, c'est que je m'en tape.
Vous dites est absolument absurde, Stéphane.
Voilà, je trouve que c'est une expérience qui est pas traditionnelle, au sens où on est tellement formaté et habitué par le cadre du récit que là il se passe autre chose.
Il faut tout expliquer, tout comprendre,
et ça sert à rien de tout expliquer. C'est comme quand on va voir un spectacle, quel qu'il soit, de danse, de ce que vous voulez,
comme David Lynch, enfin voilà,
expliquer c'est chiant.
Non mais c'est comme un magicien, on n'a pas besoin de savoir quel est le truc, on assiste au spectacle, on se laisse porter.
On n'a surtout pas besoin de savoir quel est le truc.
Il faut pas savoir. Et puis il y a le bonheur de retourner au théâtre, il y a le bonheur de retrouver des salles, de rire, d'applaudir. Et ce bonheur-là d'ailleurs sera salué par une semaine très théâtral dans la bande originale, parce que vous êtes nos invités aujourd'hui pour parler de qui est Monsieur Schmitt au théâtre Édouard VII.
Et on revient demain.
Anne Charrier sera
elle
également...
La merveilleuse Anne Charrier.
Vous venez avec Anne Charrier ?
Berlin sera
là également dans la semaine pour parler de Berlin. Et jeudi, Mélanie Page et Arthur Junot pour parler de Black Comedy. Donc le théâtre vit et revit. Allez-y et allez applaudir. Qui est Monsieur Schmitt au théâtre Édouard VII ?
Et Barbara Schulz aussi, la semaine prochaine.
C'est vrai.
Riche, hein.
Je voulais dire un truc.
Non,
Oui, c'est ça. C'est qu'à force de jouer cette pièce, parce que vous parliez de spectateurs qui n'ont pas besoin forcément d'avoir la réponse et qui c'est une expérience pour eux. En tant qu'interprète de cette pièce, il y a des choses que je n'avais pas comprises au début. Mmh. Et plus on la joue, plus je trouve des petits cailloux, des petites clés d'interprétation, enfin de sentiments, de ressentis.
Comme si Jean-Baptiste Poquelin.
Ou le petit poussé.
Blanche-Neige.
On va évoquer le théâtre d'ailleurs de Sébastien Thierry tout à l'heure avec Jacques Nerson. J'espère pas en tout cas, qui sera notre invité tout à l'heure pour évoquer et parler du théâtre de Sébastien Thierry. À suivre évidemment dans l'émission aussi Le Héros du Jour avec Daniel Morin et Tanguy Pastureau, mais tout de suite voici Alexis Le Rossignol.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Alors ça va bien, vous allez bien?
Oui. Extrêmement.
Chronique politique aujourd'hui. J'ai décidé de piquer les sujets de Tanguy jusqu'à ce qu'il en crève. Donc ça y est, on approche de la dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Mais il manque quelqu'un, Macron.
Ah, bien joué.
Il attend, mais on sait pas quoi, il attend. Ça se trouve, il croit que c'est comme à la Coupe du Monde, quand t'es pays hôte, t'es qualifié d'office. Il se dit la même chose, il se prend pour le Qatar, en fait. Du coup, il suit la campagne comme l'image de qualif, il a fait un côté match, voilà, il est là. J'ai vu le dernier sondage quand même. Cote de popularité 31%. C'est énorme. Hollande était à 17% à la fin du mandat. Donc il peut changer la moquette à l'Élysée. A priori, il va en profiter, quoi. Apparemment, c'est la fin de la crise en Ukraine qui l'attend. D'ailleurs, demain, il va voir Poutine, tout seul, comme par hasard. Ça vous met pas la puce à l'oreille, ça?
Toujours.
Si ça se trouve, il va lui dire, tu sais, Vladimir, le conflit, ça peut traîner un peu, hein. Je devrais être en campagne, mais j'ai la flemme. L'autre, il va lui dire, une campagne? C'est quoi, une campagne?
C'était une imitation.
Attendez, parce qu'il y en a d'autres dans la chronique.
Hein. Alors, on a hâte.
Je sais pas trop comment ça se passe au niveau du temps de parole des candidats. Mais si on décompte rien à Macron, il va avoir des jours de retard. À la fin, c'est lui qui va présenter le JT, quoi. Ou les émissions politiques avec Léa Salamé. Emmanuel Macron, la Fondation Abbé Pierre dresse un bilan sévère de votre quinquennat. Le logement a-t-il été délaissé?
Non.
Et là, j'ai refait Macron. Merci Léa. On passe maintenant aux questions économiques. Voilà, donc...
Laisse tomber l'imitation.
Ok. Alors pendant ce temps-là, les autres candidats attendent. Pécresse était dans les Ardennes ce week-end. Elle est entrée dans une boulangerie. Voilà. Il faisait froid, elle s'est mise au chaud, normal. Vu qu'elle était là, elle a demandé quelle était la recette du bon pain au boulanger. Il a répondu le pétrissage. Voilà. J'ai lu ça dans Le Monde édition abonné. Ça fait plaisir de payer pour ça, tiens. J'ai lu que Jadot s'était lancé sur Twitch aussi. Il a dit qu'étant jeune, il avait un poster de Dominique Rocheteau dans sa chambre qui roulait sur une mobilette trafiquée. Ça, je l'ai lu sur le site de France Inter. Comme quoi, nous, gratuitement, les infos importantes, on les rend accessibles. En revanche, cette année, on n'entend pas beaucoup parler des petits candidats. Asselineau, Lassalle, Roussel, Artaud, on entend c'est très vrai, peu parler. Ouais. C'est vrai, on lit peu de choses sur eux. Et il y a aussi Tui, Kazib et Kuzmanovic. Ouais. Alors eux, ils ont des noms de joueurs de hand, mais c'est des candidats déclarés aussi. Alors globalement, cette année, les petits candidats ont du mal à avoir leur parrainage à cause de l'éparpillement de la gauche. En même temps, la gauche, entre 2017 et 2022, elle a créé ses propres petits candidats. Le slogan d'Hidalgo, c'est « Réunir la France ». Elle a 2% d'intention de vote. Elle va être courte, la réunion. Dupont-Aignan et Philippot ont du mal aussi à réunir les parrainages des maires. Mais eux, c'est parce qu'ils sont pas vaccinés, donc ils peuvent pas rentrer dans les mairies, quoi. Ils sont à l'extérieur, s'il vous plaît. À titre personnel, j'aime bien voter pour un petit candidat au premier tour, parce que je trouve qu'il y a du panache dans leur démarche. Voilà. C'est un peu « vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance », puis sur un malentendu, quoi, vous connaissez. Mmh. Et ça mérite d'être soutenu, sans compter que c'est eux qui bousculent le plus l'ordre établi. Les autres, les grands, ils se piquent les idées entre eux. Quand il y a un truc à la cote, ils l'intègrent à leur programme. Tu leur fais tester l'appli Élysée, qui permet de te dire de quel candidat t'es le plus proche, même pas sûr qu'ils tombent sur eux-mêmes, quoi. Et puis, être un petit candidat, ça appelle une stratégie aussi pour exister. Et ça, c'est intéressant. Poutou, par exemple, c'est le clasheur. Vous vous souvenez, 2017, mm-hmm. il s'était fait tout le monde, là, comme au Baltrap. Ouais. Le Pen, Balkany, Fillon. Mm. Et Fillon, il avait répondu, Monsieur Poutou, on n'accuse pas comme ça. Bon, il avait raison quand même. Hein. François Asselineau, c'est l'affichage. Alors lui, je pense qu'il vise l'électorat SDF. Parce qu'il affiche beaucoup sous les ponts. Il doit se dire, tous les 5 ans, il y en a de plus en plus dans la rue, un jour, ça va payer, quoi. Il y a un moment amusant c'est aussi, moche. C'est quand ils prennent la parole un par un dans les soirées électorales pour résumer leur engagement en disant « quand je serai président ». Et là, c'est vrai que dans nos têtes, on se dit tous « bah non, enfin toi-même, tu le sais ». Et on voit les membres de l'équipe de campagne derrière le candidat qui regarde en l'air genre « non mais nous, on lui file un coup de main juste, voilà, c'est... on n'est pas à engager et engager, quoi ». Donc voilà, la campagne n'avance pas parce qu'on attend Macron, voilà, qui lui attend aussi. En fait, tout le monde attend. Ça sent surtout la campagne dont on attend pas grand-chose, en fait. Merci beaucoup.
Merci Alexis Le Rossi. Merci.
Si tu es sur scène en République tous les dimanches.
C'est ça.
Et il y a sur l'affiche, et on va ici un peu sur scène quand même, ce chien, ce chien de chasse, donc qui est Monsieur Schmitt et qui est quand même, c'est pas qu'une anecdote, il a son importance ce tableau. C'est un tableau qui est dans la pièce de théâtre, on peut le dire, mais il a son importance.
Ben oui, c'est
un
ça
repère.
Donne quand même, je sais pas, ça représente bien Sébastien Thierry, ce chien, on ne sait pas, voilà, c'est mystérieux. On peut donner son prénom? Il s'appelle Schnell.
Schnell.
En fait, on est bien au Luxembourg.
C'est la clé de la pièce, hein, donc il vient de balancer.
Mais pas du tout, pas du tout.
On est au Luxembourg, le chien s'appelle Schnell, ça va.
Mais surtout un tableau qui représente, c'est le même tableau tout au long de la pièce, et puis il a une vision différente. Ce tableau représente quelque chose
t'as parlé là vraiment. Oh,
Comme le test fait par le docteur, où là on comprend aussi quel est notre point de vue en fonction de ce qui est vu par Monsieur Schmitt aussi. Dans la pièce.
C'est-à-dire que le public s'identifie, suit l'histoire à travers le docteur, suit l'histoire à travers le flic et suit l'histoire à travers le personnage de Valérie.
C'est ça.
On le prend par la main, par trois options différentes, voire même quatre, puisqu'il y a la mienne.
Et c'est
comment ?
Quand même, oui, aussi.
Oui, oui. Ouais. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Et donc on ne perd pas le spectateur. C'est ça, il se pose des questions tout le temps en disant mais on va vers où, on va par où, pourquoi il faut aller par là, et on le perd pas, sinon ça devient n'importe quoi.
C'est peut-être ça aussi le talent de l'écriture de Sébastien Thierry. On va en parler donc avec Jacques Nerson dans quelques instants. Mais d'abord la musique dans la vie de Valérie Bonneton et Stéphane De Groot. Valérie, vous écoutiez en 85.
Alors on
J'adore.
Mmh.
J'ai
adoré. T'as envie de pleurer, quoi.
Comment ?
T'as envie de pleurer ?
Non. J'ai adoré. J'ai tellement adoré.
Non ?
Ouais.
Non ? C'est beau, c'est tout ?
Non ? Ça me fait pleurer ? Ça me fait. Non ? Ça me... Ouais.
Bah, si.
C'est à Cannes.
C'est vrai,
vous saviez ça ?
Ah ouais, c'est vrai, oui.
C'est Cannes,
oui,
ouais.
Non, mais c'est... Alors là, Michel Jonas, j'étais à l'internat, Deauville, j'étais extrêmement amoureuse, on aimait Michel Jonas, il ne pouvait pas savoir. C'est très émouvant pour moi.
Le pensionnat à Deauville.
Oui.
Comment vous vous retrouvez là-bas ?
C'était le bonheur, la joie.
C'est vrai ?
Oh oui.
Ne pas être à la maison, c'était le bonheur et la joie.
C'était bien, c'était bien. Oh là
faut
là.
Rappeler que la maison était dans le nord. Hein.
Non, non, on était en Normandie. Après, on a déménagé vers 15-16 ans. D'accord. On est parti en Normandie. Et là, j'étais à l'internat à Deauville. J'étais extrêmement heureuse. Ouais, ouais.
Mais c'était une punition, l'internat ?
Non, c'était la liberté, au contraire.
Non, mais vos parents, quand ils décident de vous mettre à l'internat en Normandie, alors qu'ils vivent en Normandie.
Pour eux, c'était une libération.
C'est quoi le message ?
Mais non, c'est compliqué. Ouais, écoutez ça. Fort. On va pas, je vais pas m'allonger maintenant. Hein.
Non, pas maintenant.
Non.
Prenons rendez-vous quand même.
Mais non, c'était la liberté, l'adolescence, là, c'était enfin, waouh, oui, la liberté.
Les premiers amours.
Oui, voilà.
Les premiers,
voilà, les premiers,
voilà.
Les premiers,
ouais. Grand amour, ouais. Grand.
Et t'es avec quel âge ?
16 ans.
Ah c'était les premiers amours.
C'était mon grande histoire amoureuse.
Ah oui, comment il s'appelait ?
Bah, je le dirai pas.
Pourquoi pas ?
Comment il s'appelait ? Comment elle s'appelait ? Qu'est-ce que t'en sais, Stéphane ?
Oui, comment il s'appelait, c'est au pluriel. Comment il s'appelait, tous ces gens ?
Ils étaient plusieurs.
Tous ces gens, ils étaient nombreux en plus.
Ah bah, on sait pas, peut-être que s'il a envie.
C'est la Normandie.
Il est toujours dans son personnage de la pièce. Les histoires d'amour sont très, très compliquées.
Et déjà envie, Valérie, à cette époque-là, déjà envie de faire du théâtre ?
Alors oui, à 17 ans quoi. Et justement, c'est voilà l'homme avec qui j'étais qui est allé me chercher les papiers du conservatoire et voilà j'ai passé le concours et voilà je l'ai eu. Voilà.
Mmh. Grâce. Et alors vous retrouvez aujourd'hui grâce non finissez votre phrase, ouais.
Non voilà grâce à lui.
D'accord. Ouais. D'accord. Okay. Vous vouliez être.
C'est pas grave, c'est bien.
Vous êtes vétérinaire. Aujourd'hui vous êtes sur une affiche avec un berger allemand, mais vous vouliez être vétérinaire.
Et Stéphane
Legros. J'aime toujours autant les animaux, la nature. Oui, mais c'est très important
allemand.
Pour moi. Ouais. Ouais.
Stéphane Legros, vous écoutiez dans les années 80.
T'as envie de pleurer, non ?
Ouais. T'étais amoureux ?
de l'Irlande.
Depuis la révélation que tu nous as faite à ce micro en disant que Bono n'aimait pas sa voix et sa manière de chanter, c'est incroyable.
Ce texte. Bono n'aimait pas sa voix.
Non, toujours pas. C'est ce qu'il vient de déclarer. Oui. Sunday Bloody Sunday, cette chanson vous renvoie quelle image, quel endroit ?
Mais la musique, c'est toujours, c'est comme le vin. Ça nous fait penser à des moments, à des instants. Et je sais pas, à ce moment-là, c'est pas forcément lié à ce que raconte la chanson, mais c'est une époque de ma vie où ça me situe quelque part. C'est juste ça, c'est des marqueurs, la musique.
Et où, en l'occurrence ?
La tôle.
un internat avec Valérie, on s'était rencontrés, on avait 16 ans.
Il faisait partie des îles au pluriel.
Michel Jonas, non, vous étiez pilote.
Vous cherchiez les papiers. Ouais.
Vous étiez pilote professionnel à cette époque-là.
Oui, c'est une autre vie. J'ai l'impression que c'était il y a 3000 ans. Jésus-Christ n'existait pas encore. Et c'est vrai, c'est mes premières amours, c'est la course automobile. Et le fait d'avoir évolué dans ce milieu-là et de me retrouver dans cet autre univers-là aujourd'hui, c'était compliqué pour mes parents parce qu'ils ils pensaient avoir affaire à un bon petit mythomane qui disait qu'il voulait être astronaute, pilote de course et comédien. Et c'est vrai que de me retrouver aujourd'hui sur une magnifique scène parisienne avec une magnifique distribution, avec Valérie, avec un texte et un public, une salle comble, franchement je me pince tous les soirs en me disant d'être passé d'un univers à l'autre tellement opposé, et peut-être en fait pas tant que ça, parce que c'est vrai que la course, il y a un spectacle, il y a un public.
Ouais, il y a l'adrénaline aussi quand on...
Mais il a le goût du risque, ça se sent, il aime ça.
Et une adrénaline folle, et puis un costume, un apparat, un casque, donc déjà un personnage. Donc c'est pas si éloigné que ça, mais d'avoir pu évoluer dans ces deux domaines-là et d'avoir pu m'accomplir là-dedans, c'est un truc de fou, quoi.
Et comment vous vous retrouvez sur scène, justement, avec Valérie ? Valérie l'a dit, elle connaît Sébastien, elle a déjà joué dans ses pièces. Comment s'est fait la rencontre ?
Mais la rencontre s'est faite grâce à des rencontres. C'est-à-dire que je pense que on parlait d'enfoncer des portes. Ouais. Je pense que j'avais un porte-clé énorme, donc je fabriquais des clés pour ouvrir des portes. Et parfois, il y avait des gens derrière ces portes-là, et puis c'est ces gens-là qui vous amènent ailleurs. C'est vraiment petit à petit, surtout que j'étais pas du sérail, j'ai ni fait d'école, ni de filière, ni des relations là-dedans.
Donc il faut déclarer sa flamme, il faut dire j'aimerais travailler avec vous, j'aime beaucoup ce que vous faites.
Et non seulement il faut déclarer sa flamme, mais il faut trouver des cailloux et créer son propre feu. Il faut tout construire soi-même. Mais
vous aviez une notoriété, Stéphane Legros, la télévision, les chroniques en télévision, le nombre de bouquins vendus, vous êtes un nom quand même.
Ça aide pas toujours au théâtre.
Ben, je sais pas.
Non, mais c'est venu tout ça, c'est des accidents heureux. Le bouquin, ben, c'était pas évident que j'en vende autant et que ça me mette quelque part. C'était pas évident que je débarque sur Canal. C'est Christelle Graillot qui a insisté 25 fois pour que j'y aille. Elle-même, suggérée par Camille Chamou. Enfin, tout ça, c'est des rencontres. Camille, que je rencontre sur un unitaire foireux, en me demandant pourquoi j'ai fait cet unitaire-là pour une télé. Ben, après, je comprends que c'est parce que j'ai rencontré Camille. Et ce ne sont que des rencontres qui ont fait que ça vous porte quelque part à un moment donné. Donc tous ces gens ont jalonné cette évolution qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve à vous parler d'un spectacle qui me tient à cœur avec des gens que j'adore.
Même si c'est pas exactement la même vie, Valérie, vous vous reconnaissez aussi dans cette manière d'appréhender ce métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui est fait de rencontres, de bouche à oreille, de tiens tu devrais appeler un tel, ou j'ai entendu parler d'un projet.
Toujours les gamins qui veulent faire du théâtre et tout ça, ils me demandent même les cours Florent, voilà, s'il y a deux personnes, s'il y a trois personnes qu'on doit rencontrer, on les rencontre, c'est génial. Donc on... voilà.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe?
On peut développer.
Non, mais il y a des gens comme ça, vraiment.
Non, ce que je veux dire, non, voilà, oui. Comme tu dis, parfois les projets sont pas top, mais si on rencontre une personne, c'est génial, c'est formidable.
Je vous donne un exemple parce que c'est un ami commun, mais j'avais écrit deux courts-métrages qui sont restés dans des tiroirs pendant 3-4 ans parce que j'étais pas connu et c'était absurde, personne n'en voulait. Je rencontre Danny Boone. Un mois plus tard, je tourne le court-métrage qui s'appelle Palais de Justesse et dans lequel Danny me dit, je veux avoir un rôle. C'est la première fois que je deviens, entre guillemets, réalisateur. Rencontre avec Danny. Je rencontre un mec de la Ligue d'impro. Moi, j'étais sur les circuits et il m'impose sur son court-métrage. Court-métrage qui est vu par un réalisateur qui, après, m'emmène sur une série qui, elle-même, est vue par un... Enfin, tout c'est un effet boule de neige.
Ouais, c'est ça.
Et alors, pour parler du risque, je fais juste une toute petite parenthèse. Parce que j'ai un coup de cœur fou pour un bouquin que je lis pour le moment, signé Anne de Furmentel, qui s'appelle L'éloge du risque. Et c'est une petite bible, et une petite pépite formidable que de savoir et de comprendre que se risquer à vivre, c'est bien le minimum si on veut rester vivant, et prendre le risque de mourir aussi si on veut vivre. Voilà, et c'est un livre philosophique, un livre qui nous pousse, qui nous donne des ailes sur la notion de risque, de prendre le risque.
C'est vrai que ça m'étonne pas qu'il aimait la course, parce que moi je le sens sur scène, ce truc-là, chez lui. C'est vrai.
Ce goût du risque, vous voulez dire ?
Oui, il a pas peur. Il a pas peur. C'est très agréable parce que c'est très ouvert, quoi. On sent les acteurs qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur, donc on se sent vraiment en confiance et on peut...
On change sa manière de jouer, forcément.
Ouais, je crois que j'aime ça aussi, donc c'est très agréable.
En 2008, vous écoutiez Valérie Bonneton. Elle est aussi douce dans la vie que sa voix est douce en chantant, Tracy Chapman.
Je ne me souviens jamais d'écouter Tracy Chapman, jamais. Ouais. Et là, je ne sais plus en quelle année c'était, mais...
2008.
2008, on parle de Molière, tiens.
Ah oui, en 2008, voilà. Ouais, c'était très joyeux, plein de choses. Le théâtre, le cinéma, la série qui commence. Et très joyeux, je revois, je ne sais pas, les enfants à la maison, débordés, un train qui traverse tout l'appartement au milieu. C'était le train de mon enfant, je ne sais pas pourquoi, le train de mon garçon qui traversait tout l'appartement. Et j'écoutais tout le temps Tracy Chapman à ce moment-là.
Et vous décrochez un Molière pour votre rôle, le second rôle dans Le Dieu du Carnage. On parle des auteurs, des dramaturges depuis le début de cette émission, Sébastien Thierry. Il y a aussi la patte Yasmina Reza.
J'adore Yasmina Reza, j'adore ses romans aussi. Tu parles de... J'adore son écriture parce qu'elle est toujours dans le détail, dans le détail de la vie qu'elle exploite. Là, je me souviens, cette pièce, ça commence par une petite anecdote où un gamin a blessé une dent d'un autre et ça part. En fait, il n'y a plus du tout de civilisation. Là, on n'est plus avec des êtres civilisés. J'adore son écriture, j'aime beaucoup.
Dans la même année, en 2008, Stéphane De Groot, vous écoutiez Coldplay. Du côté dénudé, j'aime bien de la guitare-voix de Tracy Chapman à la surproduction Coldplay, ce qui n'enlève rien à leur talent, évidemment. Viva la vida, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est un truc que vous avez envie d'écouter dans une voiture cabriolet en roulant soleil.
Oui, c'est complètement ça, je trouve que tout de suite on a envie de planer, il y a un univers planant avec Coldplay, et d'ailleurs le titre le dit bien, je trouve ça très joyeux, très... Des musiques comme ça qui nous emportent, ben voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé cette musique-là aujourd'hui. J'adore l'univers de Coldplay.
Comment vous découvrez l'un comme l'autre d'ailleurs la musique? Est-ce que c'est en écoutant simplement la radio? Est-ce que vous avez des amis qui sont des prescripteurs qui vous disent tiens, tu devrais écouter ça ou ça? C'est en vous baladant sur Internet, Valérie?
Oui, les amis, les personnes qu'on aime, qu'on admire, souvent on a envie d'écouter ce qu'ils écoutent ou lire ce qu'ils
lisent. C'est comme un bon livre, c'est ça.
Ouais, ouais. C'est exactement la même chose, voilà, c'est ça.
Oui, aujourd'hui on se partage des morceaux en disant tiens, écoute ceci, on envoie un lien. C'est la génération Spotify, Deezer, ce qu'il n'y avait pas avant. Oui, c'est chouette. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est que...
C'est avant, on se prêtait les disques et on les retrouvait pas parce que le pote le gardait, le disque.
Toujours. Oui. Dit oui, je te le rends, je te promets, je le rends, comme les DVD, pareil. Oui, je le note, hein. Oui, je compte sur toi.
Ce qui est génial aujourd'hui, c'est jamais, qu'on écoute un morceau jamais. Et puis il y a une suggestion du site qui vous propose un autre morceau dans le même univers et puis on découvre des chanteurs.
Il faut se méfier du côté algorithme, c'est-à-dire que d'un coup ça devient.
Mais c'est un côté positif.
Oui, moi j'aime bien, moi.
Ceux qui ont aimé ça ont également aimé ça.
Mais après, vous pouvez choisir, mais au moins il y a une suggestion et j'aime bien ça, moi.
Et en 2008, vous êtes numérique, l'ami de Panoramix dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Initialement, c'est pas le rôle qu'on vous a proposé d'ailleurs.
Non, et c'est la première fois qu'on me propose d'apparaître dans une énorme production. D'ailleurs, à l'hôtel, j'ai l'impression d'être à la cérémonie des Césars le matin avant de partir. Il y avait tout le cinéma français ou quasi qui était là, et j'hallucinais complètement. Et je me suis retrouvé moi à être druide, et être le meilleur ami de Jean-Pierre Cassel. Et mon souvenir merveilleux, c'est d'avoir passé 2 mois à côté de lui,
Formidable.
Attendre de pouvoir tourner. Mmh. Et c'est une rencontre extraordinaire. Et je me souviens, il était, c'était 6 mois ou 1 an avant de mourir. Je pense qu'il le sentait parce qu'il me racontait sa vie. Et je me souviens de moments où il était très ému, il était presque en larmes en se retournant sur sa vie. Et c'était des moments privilégiés. Et donc, je retiens d'Astérix ça. Plus que
l'élégance de Jean-Pierre Cassel.
Mais l'élégance absolue. Ouais, c'est il fait partie d'une génération qui compte encore quelques pièces rares aujourd'hui, mais c'est une autre époque. C'est clairement un autre. Oui.
C'est marrant parce que vous évoquiez Jean-Pierre Cassel quand on parlait tout à l'heure de la pièce Black Comedy. C'est lui avec Marlène Jobert qui avait joué cette pièce dans sa création française.
Et c'était pas le rôle qu'on vous avait proposé donc.
C'était pas le rôle.
Obélix, mais il voulait pas grossir. Il a dit non.
Non. Ceci dit, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'aurais adoré faire Astérix, et on m'a dit gentiment que j'avais pas ni la taille, ni la notoriété, ni rien en fait, ni la moustache.
La moustache, oui.
Mais je me projetais déjà, et on m'a dit non, il faut que tu restes à ta place, on va te mettre une barbe, comme ça on va pas te reconnaître.
Détends-toi.
Le rôle qu'on vous a proposé.
Mais c'est parce que je ne sais plus, c'est pour ça que j'essaie de meubler.
D'accord, okay, très bien. Bon, toi, tu sais?
Ouais, vous deviez être l'entraîneur de Benoît Poelvoorde.
Ah c'est ça, c'est possible.
Et vous avez passé des essais pour ça et en fait on vous a dit non, on a un autre rôle à te proposer.
Ah mais comment vous savez ça?
Parce que vous avez
Benoît qui nous l'a dit.
Lui le raconter quelque part.
Ah oui, c'est ça.
Et que la séquence était du coup moins longue, c'est-à-dire que le premier rôle en tant qu'entraîneur de Benoît Poelvoorde, ça a été gardé au montage, ça devait faire 3-4 minutes et votre rôle à vous a été réduit et du coup on se dit mince. Oui, j'accepte un autre rôle et c'est pas payant à la fin sur la pellicule quoi.
En fait le producteur m'a dit j'ai vu tes essais, je vais te proposer un rôle plus important. Et bon, voilà, je préférais l'autre rôle. Enfin, je ne sais plus très très bien.
Ouais,
mais
ouais.
Voilà, c'est pour dire que Jean-Pierre Cassel.
Contrairement, on va retenir Jean-Pierre Cassel. Pour la grosse différence avec le théâtre, c'est qu'on peut pas être coupé au montage. Ça, c'est sûr. C'est qu'on maîtrise le spectacle tous les soirs.
Et vous êtes le monteur. Vous devenez presque l'auteur. Vous devenez le réalisateur. C'est extraordinaire pour ça le théâtre. Pendant 1h30, on vous laisse vivre ce personnage comme vous l'entendez, comme vous le voyez, comme vous l'avez imaginé. Il y a une vraie liberté, comme vous le disiez très justement, Dagui, on ne vous coupe pas.
Contrairement à ici. Au théâtre Édouard VII, Valérie Bonneton, Stéphane de Gros jouent cette pièce de Sébastien Thierry. Jacques Nerson, merci de venir à ce micro. Parlons donc de ce Sébastien Thierry. Vous êtes journaliste théâtre à l'Obs, à l'Avant-Scène et également théâtre, et chroniqueur au Masque et la Plume. Comment qualifier la folie de Sébastien Thierry, mais c'est déjà la qualifier que de dire ça. Est-ce que c'est de la folie?
C'est du théâtre surréaliste. Et on peut dire que c'est un héritier direct de Ionesco, mais qu'il a une façon d'utiliser l'absurde qui est peut-être plus grand public que Ionesco. Il y a un mélange de boulevard dans le meilleur sens du mot et de surréalisme.
Du billard aussi, non? Vous trouvez pas? Du billard?
Peut-être du billard, mais encore que du billard, ça joue beaucoup sur les mots. sur le alors que Sébastien Thierry, c'est aussi uniquement les situations.
Alors justement, restons sur UNESCO avec Rhinocéros.
Il est pas d'accord.
Avec Rhinocéros, il se servait de la pièce et de l'absurde pour dénoncer le fascisme et donc il y a des valeurs. Est-ce que là aussi, il faut chercher une signification, un sous-texte aux pièces de Sébastien Thierry?
Il y a une sensibilité, notamment les personnages souffrent. Ce sont des personnages qui sont dans des drames, même s'ils nous font rire, eux, ils rient pas tellement.
On rit à leurs dépens, ouais, c'est ça.
Mais par ailleurs, je crois pas qu'il y ait un sous-texte politique ou quelconque. Il faut se souvenir que Sébastien Thierry, il a d'abord écrit pour se donner des rôles, parce que c'était un comédien, il sentait qu'il n'aurait pas de rôle très important, etc. Donc il a écrit pour cette raison. Il n'est pas mu par un motif littéraire. Et d'ailleurs, son écriture n'est pas vraiment littéraire, c'est vraiment un comédien qui écrit, dans le meilleur sens du mot. Molière aussi, dans le sens, c'était un comédien qui écrivait, donc c'est pas du tout péjoratif. Mais il a un sens de la situation théâtrale qui est absolument extraordinaire.
Alors justement, si on joue au jeu des influences ou des héritiers, vous le placez dans quel champ?
Pour moi, c'est effectivement plutôt UNESCO que tout autre.
Que du billard.
Ouais. Oui. Moi, je trouve que c'est les situations aussi chez du billard.
Oui, mais moins. Il y a des calembours. Il y a jamais de calembours. Il y a jamais de mots d'auteur chez Sébastien Thierry. C'est uniquement la situation. C'est très fort du coup d'ailleurs, parce que c'est un peu démodé aujourd'hui d'écrire avec des mots d'auteur en plaçant des petites formules brillantes, etc. Là, pas du tout. Il ne sort jamais de la situation.
Mais ce que vous dites, c'est très juste. C'est-à-dire que c'est toujours des personnages qui souffrent énormément et on en rit beaucoup.
Oui. Ouais. Alors ça, c'est vrai aussi de pratiquement tout le vaudeville.
Mais toute la comédie est basée là-dessus.
Les personnages de Fédot vivent des drames épouvantables.
Pardon, Stéphane. La comédie est basée là-dessus. Ouais. Ça démarre déjà par le type qui se prend une peau de banane et qui tombe.
C'est toujours de rire aux dépens de celui qui est sur scène.
Mais là, c'est des souffrances.
Le regard de la critique, parce que là, encore une fois, il faut accepter ces codes et ces intentions de Sébastien Thierry. Est-ce que globalement, vous dites que c'est un acteur, donc il est connu, oui, est-ce qu'il est reconnu?
Je crois qu'il est tout à fait reconnu. Maintenant, il y a eu des réactions diverses selon les pièces. Toutes ne sont pas aussi réussies que Monsieur Schmitt, notamment parce que quelquefois il a du mal à développer. Souvent, il a des idées qui sont d'excellentes idées de sketch, mais qui s'essoufflent rapidement. Là, c'est pas le cas du tout. Du début à la fin, on est pris par l'action. C'est d'ailleurs avec Monsieur Schmitt, avant ça avec Cochon d'Inde, qu'il a vraiment trouvé le succès et que son nom s'est répandu. Maintenant, c'est un auteur quand même.
Momo, Ramsès sont des pièces. Enfin, moi, j'ai adoré Ramsès, mais vous pas apparemment.
Non, c'est vrai que j'ai moins aimé Ramsès.
mais je pense que Schmitt, c'est la pièce préférée de Sébastien. C'est sa pièce préférée.
Mais ça m'étonne pas, c'est vraiment...
Qui avait déjà été joué
il y a 10 ans.
D'ailleurs, c'est ça.
Qui avait avec déjà... Richard Berry.
Ah, c'est pour ça que je l'avais pas vu. Et donc là, maintenant, vous l'avez rejoué.
Et Raphaël Goupillot, qui
exactement.
Qui avait nommé au Molière.
Et Sébastien Thierry qui jouait le rôle du policier. Et Chic Ortega qui jouait le rôle du policier. Et Sébastien qui jouait le rôle du psy.
Chic Ortega qui est dans votre spectacle aussi.
Oui, exactement. Et alors, c'est drôle parce qu'il nous raconte que son souvenir d'il y a 10 ans, les gens ne riaient pas du tout. C'est un autre esprit, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est que ça donnait une autre couleur.
Je me permets de dire à titre personnel que je trouve votre spectacle meilleur.
Merci.
Et que j'ai beaucoup plus apprécié la pièce cette fois-ci.
Ah ben merci.
Je vous présente Jacques Nerson. Du masque et la plume, et journaliste de théâtre à l'Obs et à l'Avant-Scène Théâtre. Merci beaucoup d'être venu à ce micro.
C'est très méchant, masque et la plume.
Jamais méchant. Juste sincère.
Le héros du jour, c'est maintenant, et Daniel.
Chers amis, mon héros du jour a failli être un éducateur sportif de Loire-Atlantique. Mais pourquoi donc, Daniel, me demanderez-vous, Nagui?
Pourquoi donc, Daniel?
Ah, merci. Pourquoi donc alors que vous portez une haine vigoureuse contre les habitants de Loire-Atlantique? Alors, c'est vrai que je ne porte pas ce genre-là dans mon cœur. C'est vrai. J'ai même une haine profonde pour certains d'entre eux. Il y en a même à qui je souhaite une mort lente et douloureuse. Mais, serais-je tenté de vous dire, pas plus que pour les habitants de Seine-et-Marne ou de Haute-Savoie, pour être honnête, de partout en France. Oui, je n'aime pas mon prochain. Et alors? Vous croyez qu'il m'aime, lui? Non. Et il a bien raison. Alors pourquoi ai-je failli distinguer un éducateur sportif
Mais
de Loire-Atlantique?
Pourquoi, oui, Daniel?
Ah, je vais vous le dire. Eh bien parce que cet homme, dont je tairai le nom parce que je ne le connais pas, cet homme est là, et le premier cas émis Covid. Il est positif de la narine gauche et négatif de la droite.
C'est un mi-Covid.
Voilà, alors le choc provoqué par cette info est indéniable. En revanche, l'intérêt est moindre. Du coup, l'éducateur de Loire-Atlantique n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros est un homme pressé. Oui, un homme qui n'a pas de temps à perdre, et surtout au volant de sa bagnole. Cet homme, c'est Radim Passer. Radim Passer, il a une Bugatti Chiron. Et quand il roule en Allemagne, il roule. Il a été flashé à 417 km/h.
Non.
Et 417 km/h, même quand il n'y a pas de limitation de vitesse, le flic allemand, il stresse. Il n'y a pas de limitation de vitesse, mais le code de la route allemand précise que le conducteur doit pouvoir maîtriser son véhicule. C'est quoi le problème? Rouler à 417, ça va. Ça va en Bugatti. En Twingo, je dis pas, mais en Bugatti, ça va. 115 mètres secondes. Ça se maîtrise. Stéphane, vous avez été pilote, vous me confirmez?
Oui, mais pas pilote d'avion, moi.
Ça se maîtrise. Bon, si quelqu'un traverse devant toi, t'as pas le temps de t'arrêter, c'est clair. Mais bon, voyons le verre à moitié plein. Le gars, il a pas le temps de souffrir. Et puis, excusez-moi, qu'est-ce que foutait ce piéton sur l'autoroute, hein? Tout ça pour dire qu'il existe des véhicules qui font gagner du temps. Paris-Brest, 600 bornes, 1h30. Si t'habites en banlieue parisienne à Nogent-sur-Marne, tu travailles à Paris. 25 km, 3 minutes, 3h30 maximum. Il te faut les feux verts. Mais c'est jouable. Radim Passer nous montre la voie, bon Dieu. Et c'est pour ça que j'en appelle.
À qui?
De façon solennelle.
Mais non.
Au ministre des Sports.
Ah,
super.
Monsieur Djebari, Jean-Baptiste. En ce moment, je sais, tu fais genre...
Les moins... sports ou les transports?
Mais non. Les transports.
Transport,
Je m'attendais pas.
Développons nos moyens de transport non polluants, la planète est en danger, blablabla. Ça, c'est votre discours, mais au fond, Jean-Baptiste, en vrai, mon JB, ce que t'aimes, c'est la vitesse, c'est le speed. Et niveau moyen de locomotion, t'es plus fast and furious que Loulou la brocante. Prends comme conseiller au développement réseau rapide Radim Passer. Un mec qui roule à 417, il peut faire rentrer la France dans une nouvelle dimension. Finance les achats de Bugatti Chiron. Une Chiron, ça coûte 3 millions d'euros. Si l'État finance, la France peut s'équiper. La France peut aller plus vite. Maintenant, je sais qu'une prime du gouvernement pour l'achat d'une Bugatti, ça passe moins bien qu'une prime à la bagnole électrique. Mais là, on parle de rêve, on parle de kiff, on parle bagnole, mec. Paris-Marseille, en 2 heures. Ce sera ton héritage, JB. Embauche Radim Passer.
Merci Daniel Morin. Tanguy Passion, de quoi vas-tu parler tout à l'heure?
Je vais vous parler de Nathalie Loiseau. Je sais, vous voyez pas qui c'est, mais je vais vous expliquer. C'est une dame sans filtre.
Merci. Après les infos de midi, donc Tanguy Pastureau, Leïla Kadour-Boudadi pour son interoculture, évidemment les excuses de Daniel Morin, tout ça avec nos invités Valérie Bonneton et Stéphane Degros. Laurine Benjedebria reviendra toute l'après-midi pour vous informer. Et puis à 13h, évidemment, rendez-vous avec le journal de... C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla, Kadour-Boudadi, Morgane Gavignon, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités Valérie Bonneton et Stéphane De Groot. Nous parlons de cette pièce que vous avez reprise il y a une quinzaine de jours, à peine, depuis le 26 janvier dernier. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas jusqu'à quand vous jouez.
Normalement jusqu'au début avril, mais là il y a déjà des prolongations jusque mi-fin avril.
Tellement le succès est au rendez-vous, super. Dans ce très beau théâtre Édouard VII.
Ce sublime théâtre.
Est-ce que la salle y fait pour beaucoup aussi, vous qui avez déjà joué? Même question évidemment pour Valérie. Est-ce que l'endroit, l'adresse, tout à l'heure vous avez dit... Évidemment d'abord le texte, évidemment les partenaires, mais si derrière on vous dit, tiens, c'est tel théâtre, est-ce que ça change aussi votre envie d'y aller ou pas?
Alors d'abord, je pense qu'il y a des pièces qui fonctionnent mieux ou moins bien dans certaines salles. Il y a un rapport au public qui est pas le même. Alors, le théâtre Édouard VII,
c'est un adresse, plus... adresse et programmation doivent aller ensemble. On programme pas une pièce de théâtre dans n'importe quel théâtre,
non,
c'est ça?
Non, non.
D'accord.
Je trouve qu'il y a des pièces qui sont, des salles qui sont beaucoup trop grandes pour certains textes et il faut qu'il y ait une certaine proximité aussi.
On a besoin d'intimité et là, c'est parfait. C'est pas trop grand.
Après, c'est grand quand même le théâtre Édouard VII, non? Je sais pas.
C'est grand, mais c'est pas...
850 personnes.
Ah ouais, quand même. Oui, quand même.
Et il est, c'est un des plus beaux étages.
Non,
830.
Non, non, il parle possible. Vous parlez de ceux qui sont.
Oui, d'accord. Non, d'accord. Possible. Mais en tournée, on jouait devant 1000, 1500 personnes. Là, c'est
un des plus beaux théâtres de Paris. C'est un théâtre à l'italienne. C'est une chance. C'est formidable. Moi, je me souviens quand j'étais pas du tout dans ce métier-là, j'allais voir des pièces où je voyais Berléand, je voyais Arditi, je croisais Bernard Murat dans les couloirs.
C'était son théâtre avant, oui.
C'était son théâtre, oui. Et mettait en scène. Et puis, je rêvais de théâtre, je rêvais d'être là. Et puis, le fait de se retrouver sur cette scène-là des années plus tard, c'est.
Et à l'inverse, Valérie, il y a des salles dans lesquelles vous ne voulez pas jouer. Je parle pas de Schkumoun ou de Superstition en disant non, j'ai pas envie d'aller
dans ce théâtre. Je me pose pas trop la question parce qu'il y a quand même de très beaux théâtres quand même à Paris, donc c'est pas la priorité. Après, évidemment, voilà.
C'est quoi voilà?
Mais je veux dire.
Vous voulez pas jouer à N'oubliez pas les paroles parce que vous finissez pas vos phrases.
J'irais pas jouer dans une cave, quoi. Mais c'est pas la priorité. Je suis pas obsédée par l'endroit. On me dit que jouer là ou là.
Précisément, après les informations scrutées sur Internet, 720 places au théâtre Édouard VII.
Voilà, ouais, on m'a toujours dit 850. Non.
Ça, c'est votre agent qui vous fait croire ça. Valérie Bonneton, Stéphane
Debrou. Sur les 10%.
Donc, qui est Monsieur Schmitt avec Alain Douté, Chic Ortega et Steven Dagrou. Tout le monde joue avec une excellence et un plaisir que nous partageons quand on est dans la salle parce que cette justesse-là, ces nuances, ces silences, ce rythme-là compte énormément. Et d'ailleurs.
Alain Douté, vous avez oublié, je crois.
Pardon? Non, je l'ai dit.
Ah, d'accord.
Alain Douté, Chic Ortega et Steven Dagrou. Avec le sens du rythme aussi. Dans une comédie, le rythme et le tempo est important.
Il n'y a que ça, c'est de la musique. C'est une note.
Il faut avoir ce sens-là, c'est vrai. C'est très agréable quand on joue ensemble.
Et quel est le rôle, entre guillemets, du metteur en scène de Jean-Louis Benoît? Qu'est-ce qu'il vous l'apporte, à part le troisième œil?
Mais déjà, la scénographie, c'est lui qui imagine l'écran dans lequel on va évoluer.
Les jeux de lumière aussi qui sont jolis avec les découpes qui sont faites sur le décor, la lumière qui sort de la chambre.
Oui, il se projette dans un univers dans lequel on va évoluer. Après, ça dépend des metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui sont très directifs, d'autres qui nous laissent faire. Je pense que.
Comment vous préférez quoi? Celui qui vous dit ce qu'il faut faire ou celui qui vous suit?
Alors, vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, je vous aurais dit celui qui fait
J'avais pas votre numéro il y a 15 ans.
Pourtant, je vous l'avais filé. Je voulais bosser avec vous déjà.
C'est vrai en plus.
Non, moi aujourd'hui, j'adore me faire diriger. J'aime bien avoir quelqu'un qui me permette de me transformer et d'aller quelque part. Mais ici, d'emblée, je trouve que la direction d'acteur se fait déjà au niveau du casting. C'est Woody Allen qui fait ça. Il n'y a pas beaucoup de direction d'acteur sur un plateau. Et la direction se fait au moment où il choisit les gens, parce qu'il imagine que les gens qu'il a choisis vont naturellement se mettre dans les costumes.
Valérie, en tout cas, on cherche tous ensemble. On est tous le théâtre beaucoup plus qu'au cinéma. C'est-à-dire que les répétitions, c'est extrêmement important, extrêmement agréable, et tous on cherche ensemble. Le metteur en scène, Jean Haas qui a fait les décors.
Vous proposez aussi des choses.
Oui, on propose et ça vient petit à petit, tous ensemble aussi.
Vous improvisez aussi de temps en temps, le soir, vous rajoutez
Non, mais il y a une immense part en quelque sorte d'improvisation, de liberté à travers le texte, ça c'est sûr.
On aménage des petites choses, c'est une pièce dans laquelle on peut pas vraiment improviser.
On s'approprie énormément les rôles.
Vous êtes cabotin ou pas, Stéphane de Groot, sur scène, vous?
Non, je suis pas cabotin, mais je suis très fragile. C'est-à-dire que Valérie me fait beaucoup rire. Je la regarde presque comme un spectateur. Je l'observe faire et j'ai un gros problème. C'est-à-dire qu'avant-hier, on est resté 10 minutes bloqués de fou rire.
Cabotine? Je sais pas si on dit cabotin, un cabot et un cabotine.
Un cabot, cabotin. Ah d'accord, ok.
Je sais pas.
Un
caboteuse.
Si, un cabotin.
On dit un cabotin.
Un dérivé de cabot, ça peut marcher.
Ok. Très bien. qui est Monsieur Schmitt? C'est au théâtre Édouard VII. Alors pas ce soir. Vous avez la gentillesse de venir travailler à la radio alors que vous êtes off. Vous pourriez vous reposer, faire une grasse mat. Ouais. Merci d'être là en tout cas.
Mais c'est une récompense d'être là, Nagui.
Non, chérie. À partir donc de demain et jusqu'en avril, mais voire plus si affinité.
Non, je pense que c'est mi-avril.
Mi-avril.
C'est jusque mi-avril.
Ah, je sais pas.
Enfin, c'est en train. Je ne sais pas.
Non, vous, on avait dit comme prévu, vous arrêtez en mars, mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra.
Ah voilà, je sais qui me remplace.
En tout cas, officiellement, c'est jusqu'au début avril. Voilà.
Qui me remplace.
Valérie Bonneton et Stéphane de Groot. Voici tout de suite Tanguy Passion.
Tous autour de nous, on a des gens sans filtre, une tante qui nous dit qu'on a pris des fesses, un collègue qui nous dit qu'il n'aime pas trop les juifs et à qui on hésite à dire qu'on s'appelle Benayoun, un grand-oncle échangiste qui, à l'enterrement de sa femme, s'écrit « Vous savez quoi, ma Jocelyne, elle aurait voulu qu'on s'éclate. Allez, gang-bang, on va vous donner les règles, monsieur le curé. Tenez, prenez Nathalie Loiseau, la députée européenne. C'est une dame d'apparence paisible, elle ressemble à Mrs. Doubtfire. Elle est arrivée à La République En Marche, qui n'est pas un groupe de punk. Hein, le plus foufou là-dedans, c'est Blanquer, mais même à Ibiza, il faut qu'il aille à Noël quand il y a rien. Lui, vous le foutez à Mykonos en août, il se met au Scrabble. Bon, sur le papier, Nathalie Loiseau, c'est pas la première dans le top de la rebelle attitude. Hein, alors, j'ai consulté sa bio, elle a eu une vie plan-plan. Elle est née à Neuilly-sur-Seine, la ville la plus conservatrice du monde. C'est le seul endroit où vous arriveriez à vendre des coussins brodés à l'effigie de Valérie Pécresse. Alors, anecdote, Nathalie Loiseau s'appelle comme ça parce qu'elle s'est mariée en 92 avec un certain Bertrand Loiseau. Hein, son nom de jeune fille, c'était Ducoulombier. Donc, je pense qu'elle a voulu rester dans le même champ lexical. Hein, pendant 10 ans, sur le 36-15 Ornito, elle a branché un par un tous les mecs qui s'appelaient Mouette. Un René Colibri lui a envoyé un message et s'est dit il va quand même y avoir un petit problème de taille. Elle a eu une aventure avec un Péruvien, Pablo El Condor, hein, qui lui disait il m'est soufflé frotté par Nicolas Hulot en 89 sur un tournage de Ushuaïa. Hein, puis elle a rencontré l'oiseau. C'est bien parce que c'est générique. Hein, c'est comme si la femme de Franck Leboeuf avait rencontré un Jean-Luc Bovidé. Bref, Nathalie Loiseau en apparence, on n'est pas sur la mythologie du rock'n'roll. Mais ce week-end, elle a dû boire. Hein, elle s'est lâchée en mode pump it up, comme dit souvent Jacques Delors. Je vous explique. Samedi, elle donne une interview au Point, le journal de ceux qui aiment les fins de phrases. Chose qui, chez Fabrice Luchini, n'arrive pas. Elle revient alors d'Ukraine. Pas pour le fun, bien sûr. L'Ukraine, sur l'échelle de la joie, arrive 2000e derrière la verrue plantaire et les discographies de Barbara. Pour le taf. Elle s'est rendue près de la frontière avec la Russie, a vu les milliers de soldats russes qui y sont postés, puisque Poutine, le mâle alpha à tête de gérant d'hôtel Ibis, veut entrer. Mais je pense qu'il a perdu son passeport. Donc, comme tous les gens qui ont une armée, il se dit, si on arrive à 80 000, ça causera moins de soucis. Technique dite des gitans à Perpignan, quand la boîte Le Silver Club rechigne à les laisser entrer. Ici, à France Inter, on a vécu ça avec les Belges. Hein, on est les seuls à qui, quand Zemmour dit qu'il y a trop d'étrangers en France, pensons aux Belges. Donc, Nathalie Loiseau voit ça. Elle se dit, par les lunettes de Robert Schuman, l'Europe peut pas rester à rien faire, sinon les Américains vont régler le truc, alors que Biden est plus liquide qu'une soupe à l'oignon, et on va passer pour des buses. Il faut comprendre que là, elle est chauffée à blanc. Hein. Dans sa tête, c'est le Dawa. Même à Pompéi en 79, c'était moins chaud. Or, il ne faut jamais accorder d'interview quand émotionnellement on est fébrile, parce qu'on va trop loin. Il y a 30 ans, Maïté de la cuisine des mousquetaires, apprenant que Micheline avait détourné deux rognons de veau pour son usage personnel, n'avait-elle pas déclaré à Télé Z, je cite, « Je vais lui niquer sa race à cette coche ». Voyez, hein. Donc en interview, mon conseil, parce que j'en ai déjà fait pas mal, hein, trois, bon, c'est de garder la tête froide. Ce que n'a pas fait Nathalie Loiseau. Et là, samedi, elle dit « Dans cette crise, l'Europe ne peut pas se contenter d'être une grosse Suisse molle ». Alors déjà, cliché, les Suisses ne sont pas tous mous. Nous, à la bande originale, on a Alexandre Kominek qui hurle. Quant à Patrick Juvet, qui était de Montreux, il a passé sa vie à secouer son boule de façon frénétique. Ça accélérait son transit intestinal. Hein, il pouvait digérer une raclette en seulement 17 minutes. Donc la Suisse a réagi. Elle a répondu à Loiseau « Merci d'évoquer la Suisse. Depuis des décennies, nous œuvrons pour la paix. » Gna 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 gna. Forcément, un langage diplomatique. Il n'allait pas écrire « Tu sais ce qu'elle dit la grosse molle hein, ?» Parce que Nathalie Loiseau aurait répondu « La Suisse, mange tes marmottes. » Enfin, ça serait parti dans tous les sens. Elle n'a pas de filtre. Hein, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. En 2019, elle avait traité l'eurodéputé Jean Arthuis d'aigri et de frustré. Angela Merkel de problème de l'Europe et un proche de Merkel d'ectoplasme. Alors, ce qui est original, c'est une insulte moins courante aujourd'hui qu'en 1952. À part Édouard Balladur, qui, si vous le traitez d'ectoplasme, vous gifle avec son bas de contention avant de vous défier en duel dans un pré, bon, tout le monde a oublié ce que ça voulait dire. Alors, Madame Loiseau ne s'est pas excusée auprès de la Suisse, elle a juste dit qu'elle était harcelée par des trolls haineux. C'est pratique l'excuse des trolls parce que ça évite toujours de se remettre en question. Un jour, on dira à Bachar al-Assad, oui, la guerre en Syrie a fait 500 000 morts, et répondra, ah, monsieur le président de la Cour pénale internationale, vous êtes en train de me troller. Hein, il y a un rapport très complet sur bacharalassad.com qui lui a compté en tout 3 morts des accidents de trottinette électrique. Alors bien sûr, Nathalie Loiseau, elle, n'a tué personne. Elle explique qu'elle a parlé à des journalistes en pensant que c'était du off. Mais depuis Twitter, il n'y a plus de off. 100% des gens ont des smartphones. Nagui, vous avez même dû vous mettre à une sexualité dite classique. Hein, parce que votre femme vous disait, il y a des photos sur Insta. C'était vraiment au dîner pro d'Alphine Ernaud, ces trucs avec des masques. Enfin voilà. Enfin, Nathalie Loiseau a ajouté, attendez la phrase mythique, je n'ai rien contre la Suisse, j'ai moi-même de la famille à Annemasse, juste à côté. Hein, c'est comme quand les racistes vous sortent un copain noir. C'est ça, enfin, ouais. C'est génial. Voilà. Donc mon conseil à Nathalie Loiseau est de, bon, je sais pas, je la fais ou pas.
Ouais,
bon,
vas-y.
Allez, de fermer son bec.
Allez, au revoir. Oui.
C'est une fin de carrière. Adieu.
Et on se retrouve, Tanguy, le 24 février au Corum à Montpellier.
Oui, et on embrasse Marina Rollman aussi.
Ah, les Suisses aussi, c'est vrai.
Et toute bien la Suisse. D'autres événements culturels à part, évidemment. Ah, qui est Monsieur Schmitt au théâtre?
Oui. On va Leila. Parler de Julia Fox. Vous savez qui c'est?
C'est une actrice. Je vois,
c'est une comédienne. C'est aussi la nouvelle Meghan. Compagne de Kanye West.
Sœur de Marina.
Oui.
Elle est super.
Et elle pourrait incarner une star mondiale. Mais qui donc?
Bah ça, il faudrait voir à quoi elle ressemble. Toi, tu la connais.
Bah, Kim Kardashian, non?
Non. Le biopic, ça serait pour jouer dans un biopic.
Mais c'est une mise en abyme intéressante.
Mais non.
Une chanteuse?
Le biopic.
Une personne vivante?
Le biopic.
Bah, réponds.
Bah, j'aimerais bien juste finir.
La chanteuse.
Bah, si je peux finir ma phrase, je vous le dis, le biopic serait réalisé par la chanteuse elle-même.
Lady Gaga.
Et on cherche la chanteuse. C'est pas Lady
Beyoncé.
Gaga, non.
Barbara Streisand.
Non.
Barbara Jones.
Non. Grande chanteuse américaine. Enfin, chanteuse. Une grande star. Une star américaine.
Barbara Streisand.
Madonna.
Bravo. Voilà. C'est Madonna, absolument.
Elle chante toujours.
Madonna a posté justement une photo avec Julia Fox à ses côtés, laissant entendre qu'elle allait l'incarner dans ce film. Est-ce qu'il y a une star que vous aimeriez interpréter, même si physiquement vous lui ressemblez pas, c'est du rêve.
Miss Tinguette.
Ah bon, pourquoi Miss Tinguette ?
C'est un personnage très très fort à l'époque, qui disait tout ce qu'elle pensait, qui était hallucinante, quoi. Ouais. Oui, et puis cette époque-là, cette période-là, c'était la fête.
Et ça vous irait bien ?
Hein ?
Ça vous irait bien, mais il faut danser, il faut chanter, il faut...
Pas.
Non, mais c'est ça, c'est un rôle
vous aimeriez ?
Complet.
Comment ?
Vous aimeriez chanter, danser ?
Ah oui, j'aime bien. Ouais, j'aime ça.
Et on vous a pas proposé. Alors, si, il y avait Céline Dion dans le final de.
C'est une comédie musicale il y a très très longtemps.
Ah oui.
Jeanne et le garçon formidable.
D'accord. Et vous, Stéphane, un personnage fantasmé que vous aimeriez incarner même
Non,
si...
pas forcément. C'est pas un personnage fantasmé. Non, mais alors d'abord, je sais pas si je suis capable.
Non, mais c'est dans un rêve complètement fou. Même si vous n'êtes pas physiquement.
Vous êtes acteur.
Oui. Ouais. Ah ouais, j'adorerais, oui.
et vous jouez un biopic de.
Notamment
Rocco.
Non, je sais pas, je l'assure, je sais pas si je serais capable.
Vous avez une icône vivante ou décédée,
Non, très honnête, non.
Un pilote de Formule 1.
Personne.
J'ai pas du tout envie de me projeter dans un pilote de Formule 1. Oui, il y a des gens qui m'ont marqué, mais
le poster de votre enfance.
Je me vois pas faire Raymond Devos, ou je me vois pas faire Serge Gainsbourg, ou non. Alors la réponse est non.
D'accord. Et ben c'est pas grave. Autre question. Ouais. Quelle série française va être adaptée en Corée du Sud, en Indonésie, au Moyen-Orient, aux Philippines, 10%. En Malaisie? Absolument, c'est 10%. La série a déjà été...
Ça va être le pourcentage qui va rapporter le plus.
Ça va être énorme. Elle a déjà été adaptée en Chine, en Turquie, en Angleterre, en Italie, au Canada et en Inde.
Punaise.
C'est une série qui voyage, mais c'est complètement incroyable. Vous avez grandi avec quelle série, enfant? Parce qu'on va peut-être parler de ce que vous aimez regarder, mais enfant surtout, qu'est-ce qui vous a accompagné?
Les Mystères de l'Ouest.
Artemis Gordon, James West.
Les Mystères de l'Ouest, j'adorais Dynasty, j'adorais Jonathan Hart et Jennifer Hart.
Ah
voilà,
ouais.
Le samedi après-midi, vous voyez, j'adorais.
Ouais.
Et Dynasty, j'étais assez fan, je dois dire.
C'est vrai, Dallas, vous avez suivi avec assiduité.
Dallas, j'adorais.
Et vous, Stéphane?
Dans les rues de San Francisco, Starsky Hutch, la petite maison dans la prairie.
Ah, moi aussi, oh oui.
Voilà, ah bah tu l'as pas dit.
au nom de la loi, non, Steve McQueen avec sa carabine.
Dactari.
Ah oui.
Flipper le dauphin.
Dactari.
L'homme qui tombe à pic.
Oui, l'homme qui tombe à pic, tout ça.
Flipper le dauphin, je ne suis pas un dauphin. Je ne rapporte pas la balle.
Netflix, c'était chiant.
Oui, alors il y avait le bruit du dauphin.
Ça vous dit rien? Je ne suis pas un dauphin.
Juste avant qu'il meure, ça.
Ça vous dit rien? Je ne suis pas un dauphin, non?
Non.
Ah, c'est marrant parce que c'est votre réplique dans la pièce.
Je suis pas un dauphin.
C'est vrai.
Ah oui, pardon, non, c'est parce que ça, c'est le personnage.
Est-ce qu'il y a des projets de série en ce moment? Parce que beaucoup de comédiens le disent, que ça devient un peu le Graal, quoi. La série, surtout quand elle est bien pensée, quand elle est bien produite, quand elle est bien faite, bien entendu.
Ah oui, il faut qu'elle soit bien faite.
Vos agents respectifs, j'imagine, maintenant, sont très ouverts à ces propositions-là. Vous, est-ce qu'il y a des séries qui vous plaisent particulièrement, ou des personnages, on l'a dit, beaucoup de
policiers. Ou faire un guest, peut-être dans une série que vous aimez.
Un Capitaine Marlowe.
Non, mais c'est vrai que c'est difficile, les séries. Il faut que ce soit extrêmement bien écrit. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai été gâtée avec Fais pas ci, fais pas ça.
Sûr,
Mais là, peut-être avec les mêmes producteurs, un projet qui est en cours.
Avec Éléphant.
On verra.
D'accord. Oui. Et vous, Stéphane?
Et vous, Stéphane?
Moi, je suis fasciné par la qualité de jeu et de scénario de certaines séries. Là, je suis dans Succession. J'hallucine complètement.
Génial.
C'est génial.
Mais à quelle saison vous êtes? La troisième?
Je suis à la deuxième en plus.
Ah, vous êtes dingue.
Et c'est un truc de dingue, quoi, la manière dont
c'est. Un organe.
C'est fou. Génial, ouais, c'est fou.
Je t'ai réveillé peut-être, non?
Non, pas du tout.
Non, je sais pas. D'accord, ok.
Froda, c'est formidable.
Froda,
Khalifa. Okay.
Parlons donc des projets, cette fois-ci concrets, qui ont déjà été tournés ou pas. Enfin, le Juste Ciel, par exemple, a déjà été tourné.
Ciel, Laurent Tirard, voilà.
Vous y faites...
Francis Babette Kunson, Camille Chamou.
François Morel. Et vous y faites quel personnage?
Une mère supérieure. Une mère supérieure d'un couvent et qui...
C'est un film d'époque?
Non, c'est un film, c'est aujourd'hui. C'est un film très très original. Enfin voilà,
d'accord.
On parlera très drôle.
Vous avez été dirigé par Olivia Sayas également, dans quel film?
Oui, une série qu'on a fait d'un seul coup évidemment, là vous me demandez.
Irma Vep.
Irma Vep, merci, merci. Et donc je me suis régalée de retrouver en fait Olivier parce que j'adore cet homme-là, c'est la troisième fois que je travaille avec lui. Et c'était un régal de le retrouver avec Jeanne Balibar, notamment voilà, Alicia Vikander.
Chic, Jeanne Balibar.
Ouais, ouais. Super.
Super. Vous êtes dans Tendre et Saignant, Stéphane de Groot, on en a parlé à ce micro avec
Géraldine
Pellas. Film de Christopher Thompson.
Exactement. Mm-hmm. Vous êtes un séducteur. Toujours avec, il y a toujours un verre de vin là où vous êtes. C'est vous qui demandez ça, parce qu'au théâtre, il y a un verre de vin.
Peut-être qu'on me reconnaît comme étant quelqu'un de un petit peu dévié à ce niveau-là.
D'épicurien.
Voilà.
Vous serez... Alors, il se passe un truc entre Elsa Zilberstein et vous ou pas?
Je pense c'est Maclaude Jansac.
C'est Maclaude Jansac, j'adore. Hommage à Louis de Funès. Big Bug de Jean-Pierre Jeunet avec donc Elsa Zilberstein et Isabelle Nanty. Ça passe là au mois de février, je crois.
Oui, dans pas très longtemps, dans la semaine prochaine sur Netflix.
Et puis le 8 juin, vous serez dans Champagne de Nicolas Vanier avec à nouveau Elsa Zilberstein et François-Xavier de Maison. Je n'ose pas voir les photos au catering de vous en train de trinquer parce que vous
êtes... Elles ont été supprimées, toutes ces photos. Il y a Eric Elmosnino aussi, il y a Sylvie Testu, il y a Valérie Kersinti, enfin il y a une bande formidable, c'est un film choral qu'on a tourné en Champagne, qui s'appelle Champagne.
C'est l'histoire de mariage, c'est ça, de couple, de plusieurs couples?
Oui, non, c'est moi qui me marie, et c'est pour mon enterrement de vie de garçon, et j'emmène ma prétendante à ce week-end de fête, qui est incarné par Claire Schuste, qui est formidable d'ailleurs, et qui est aussi dans Big Bug. Donc vous voyez, il y a une certaine fidélité dans les projets. Et après, en septembre, j'espère, je croise les doigts, parce que j'ai écrit une pièce de théâtre qui devrait se jouer en septembre.
Et vous pouvez nous donner le titre, puisque vous l'avez écrit.
Ça s'appelle écrite. Un léger doute.
Un léger doute. Et vous savez déjà qui vous voulez voir au casting. Vous l'avez écrite pour vous comme...
Je l'ai écrit pour quelqu'un. Ce quelqu'un, ça sera pas ce quelqu'un-là. Donc, à la base, c'était pour quelqu'un. C'était, voilà.
C'était sur mesure, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en l'écrivant, vous aviez l'image et la voix de l'acteur.
Absolument. D'accord. De l'actrice en particulier.
L'actrice, pardon.
Et donc, c'est deux couples. Et c'est un exercice. C'est mon premier exercice d'écriture de théâtre. Et c'est très excitant. C'est fascinant.
Vous avez joué dedans?
Et je pense que je vais jouer dedans. Oui, je l'ai écrite pour que je puisse jouer dedans. C'est une pièce dans la pièce. C'est assez dense, assez complexe. Et c'est sur le questionnement de est-ce qu'on est là? Est-ce que le présent existe? Est-ce que, qui sommes-nous? Est-ce que le moment que nous vivons là existe vraiment? Voilà. Donc, je suis fasciné par ça, par le temps qui passe.
On a un peu aussi l'absurde, j'imagine.
Complètement, bien sûr.
Qui rentre là-dedans. Des velléités d'écriture, Valérie Bonneton?
Oui. Ben, écoutez, figurez-vous que je suis en train
d'écrire
un livre.
J'écris la même pièce.
Non, j'écris un roman. Un livre, en fait, c'est le point de vue de mon chien. En fait, ça, c'est Marc Duguin qui m'a dit, tiens, tu vas écrire un livre. Je lui dis, bah non, je veux pas écrire un livre, parce que j'écris depuis, voilà, j'ai aussi envie d'écrire un scénario et tout ça. Et puis, je lui dis, non, je vais pas écrire un livre. Il m'a dit, si, c'est Clara Dupont-Mono, qui écrit S'adapter, qui est éditrice et qui écrit une collection qui s'appelle Bestial, autour d'artistes et leur rapport à l'animal. Donc lui, Marc Duguin, écrit un livre et c'est...
Et vous avez dit dans l'interview hier, dans le JDD, que vous preniez au jeu en pensant ne pas être légitime ou
pas
capable
d'écrire.
Pas du tout.
Je me suis dit, non, je vais pas écrire. Et puis, j'ai commencé à essayer et j'adore.
Super.
Et je me régale. Voilà. Et là, j'arrive à la fin.
C'est drôle parce qu'en tournée, on était en voiture pour aller de ville en ville et Valérie était derrière avec son ordinateur et chaque jour elle se plongeait dans son écriture, fascinée par son histoire et c'était
vraiment
à voir.
J'ai découvert quelque chose qui me plaît énormément.
L'animal est sur l'affiche, mais il y a également un berger allemand. Aux côtés de Valérie Bonneton et Stéphane de Groot, la pièce passe au théâtre Édouard VII. C'est pas grave. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour, pour Lila, qui ce matin s'est lancée, quelle folasse, dans un cours de démocratie pour Nagui. Elle a essayé de faire comprendre à l'enfant des pyramides la position différente que pouvait avoir Valérie Bonneton.
Elle n'était pas d'accord.
Ah, c'est donc ça la démocratie, s'est écrié Nagui, et de rajouter, ce serait plus la même émission, mais j'aime bien l'idée. Pas pour moi, mais dans l'absolu, why not? Désolé pour Stéphane de Groot, qui ce matin était stigmatisé pour son bronzage insolent. Désolé Stéphane, mais vu les sondages pour la présidentielle à venir, on ne veut pas se fâcher avec 30% d'auditeurs potentiels qui trouvent le bronzage intense suspect, mais bon, vous n'étiez pas obligé d'en rajouter une couche non plus.
Si vous êtes bronzé.
Ouais, vous êtes bronzé vous aussi, bravo, on va mal finir, déjà ce matin c'était limite. Désolé pour nos auditeurs sensibles qui se sont trompés d'émission, qui ont eu ce sentiment en tout cas quand ils ont entendu ça.
Mais je fais votre fion là.
Je fais votre fion. Bah voilà. Ça faisait très très trapenard. Mais en tout cas, on a bien tous l'image. Allez, bon appétit, bien sûr. Oh.
Merci beaucoup, Valérie Bonneton. Merci beaucoup, Stéphane
Degros. Merci. Merci.
Qui est Monsieur Schmitt? C'est au théâtre Édouard VII, signé Sébastien Thierry, avec Alain Douté, Chic Ortega et Stéphane Dagrou. Demain, c'est Dagrou. Demain, c'est Roche Dizem qui sera notre invité. Les carnets de campagne, c'est maintenant avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut.
Bonjour.
Destination cette semaine?
Le département de l'Ain. Ah. Vous savez où c'est?
Oui.
Mais c'est au milieu.
Presque.
À l'est. Non. Et on va à l'est. Attends, toi tu dis que c'est en haut, toi tu dis que c'est à l'est.
C'est à l'est.
L'Ain.
Département de l'Aude.
À une heure de Paris, c'est à l'est.
Non, c'est le début de l'Auvergne.
Tu confonds avec l'Aisne. C'est plutôt Nantua.
Ah oui. Voilà. Alors, c'est on s'en rapproche.
Ça vaut le coup de faire une émission.
On attend que ça a des informations de la part de Philippe Bertrand. Merci Philippe, bonne émission.
Service, salut.